Chapitre 10. Une visite déplacée. Cependant qu'Hector Mansel roulait vers une destination inconnue, M. Pommier longeait le quai des Orfèvres, se dirigeant vers la place du Châtelet. Sa démarche n'avait plus cette incertitude qu'avait remarqué le jeune inspecteur un instant auparavant. Sans être celle d'un homme en pleine force, elle était normale. Le chapeau melon sur les yeux, il ne regardait ni à gauche ni à droite. Un remorqueur passa près de lui, tirant une demi-douzaine de péniches. M. Pommier ne daigna même pas détourner la tête. Ainsi, abîmé dans ses réflexions, il atteignit la place du Châtelet. Il la traversa, puis longea la rue de Rivoli dans la direction de la Concorde. Arrivé place du Palais-Royal, il considéra le ministère des Finances avec un certain respect, puis héla un taxi. « À Étoile !» dit-il en ouvrant la portière. À peine assis dans la voiture, il ferma les yeux, cependant que ses lèvres balbutiaient des mots incompréhensibles. Ainsi plongé dans son rêve intérieur, il ne s'aperçut même pas de la beauté de cette radieuse matinée de juin. À l'Étoile, il se fit arrêter au coin de l'avenue Victor Hugo. Il régla le montant de sa course, prit la rue de Presbourg, regarda passer un lad qui conduisait par la bride un cheval dans la direction de l'avenue du Bois. Puis il suivit l'avenue Kléber dans la direction du Trocadéro. Était-il heureux ou bien souffrait-il? Quoiqu'il marchât la tête baissée, ses narines humaient avec allégresse l'air parfumé du matin. De temps en temps, il s'immobilisait comme pour reprendre haleine. Un passant l'eût observé à un de ces instants qu'il n'eût pas manqué d'être surpris. Les mains jointes, très bas, comme s'il n'eût pas voulu qu'on remarquât qu'il priait, les yeux levés, mais vides, sans expression, la poitrine oppressée, il semblait rire. Finalement, il pénétra dans l'immeuble habité par les Nervray. « Madame Nervray, » demanda-t-il à la concierge. « Au troisième, monsieur !» Il entra dans l'ascenseur, mais en ressortit au bout d'un instant. Il n'était pas parvenu à le faire fonctionner. Lentement, il monta les trois étages, s'arrêtant toutes les 10 marches pour reprendre haleine. « Est-ce que Madame Nervray est chez elle ?» demanda-t-il à la femme de chambre qui était venue ouvrir. « Je vais voir, monsieur. Veuillez entrer. Qui dois-je annoncer ?»« Monsieur Auguste Pommier. » La femme de chambre se retira. Avisant une chaise, le père de Suzy s'assit. Petit à petit, il s'était encore métamorphosé. Alors qu'à la police judiciaire, il avait ressemblé à un vulgaire tapeur, à un homme qui profite d'un malheur qui lui est arrivé, il avait à présent l'air d'un père à la fois meurtri et prêt à pardonner. Sans bouger, grave, ayant les apparences d'un ami chargé d'apprendre à une mère la mort de son enfant, il attendit une dizaine de minutes. Finalement, la femme de chambre vint. « Madame vous recevra, » dit-elle. « Veuillez me suivre. » Elle conduisit M. Pommier dans un petit salon, le pria de s'asseoir et se retira. Comme dans le hall, le petit homme demeura immobile. Pas une fois, durant les quelques minutes où il resta seul dans cette pièce, il ne leva les yeux pour examiner l'ameublement. « Excusez-moi, monsieur, » dit Madame Nervray en pénétrant dans le petit salon, « de vous avoir fait attendre si longtemps, mais je n'étais pas levée au moment où vous êtes arrivée. » « Je vous excuse, madame, » répondit gravement le père de Suzy. Il s'inclina devant l'hôtesse, puis continua. « Je ne sais si vous savez qui je suis. Monsieur Pommier, pour vous, cela ne signifie sans doute pas grand-chose. »«
je sais, monsieur. »«
Je suis le père de la jeune femme que votre mari a assassinée. »«
Je le savais, monsieur, oui, je le savais, » répondit Madame Nervray, bouleversée.
« La douleur dans laquelle je vis depuis le drame est immense. » Il y a 48 heures, j'étais un homme heureux. Je pouvais l'être. La plus brillante des carrières s'offrait à mon enfant. Elle rayonnait de bonheur. Cela suffisait au mien. Et soudain, un geste stupide a tout brisé.
Monsieur, ne croyez pas que vous êtes seul à souffrir. Je sais, vous devez me haïr. Pourtant, si vous saviez comme une catastrophe semblable à celle-ci peut vous apprendre de choses sur les hommes, sur le monde, si vous saviez quelle brutale lumière a soudainement éclairé mon âme. Je le sais, madame, et c'est justement pour cela que je me suis permis de venir vous trouver. Oh, ne croyez pas que je veuille vous demander une réparation, ce serait impossible. Rien, pas même une fortune, ne me rendra ma chère enfant. Pourtant, je ne suis plus jeune, elle était mon unique soutien, et au moment où je pouvais compter sur elle, elle disparaît, me laissant seule, malade, sans affection. Voyez-vous, madame, je vous dis la vérité. Je ne suis pas venue pour vous reprocher quoi que ce soit. J'ai assez vécu, j'ai assez souffert pour comprendre qu'on n'est jamais responsable que de ses propres fautes. Si votre mari est un assassin, vous n'en êtes pas moins une honnête femme. C'est à cette dernière qu'un père meurtri s'adresse. Je ne vous demande pas l'aumône. Je vous demande simplement de considérer nos deux destinées. Semblables par la douleur, combien elles sont différentes par la fortune. Vous vivez dans ce luxueux appartement pendant que je n'ai pas de quoi manger. Des domestiques servent votre jeune personne, cependant que le vieillard que je suis n'a même plus un être au monde pour le soigner. Non, je ne vous demande rien. Mais si vous croyez pouvoir faire quelque chose pour moi, faites-le, non pas pour atténuer la faute de votre mari, ce serait impossible, mais par pur esprit de charité. Oh, monsieur, si j'avais su que vous étiez dans une telle gêne, répondit Madame Nervray bouleversée, je n'aurais même pas attendu que vous veniez me voir. Je serais allée à vous. Je ne demande pas l'impossible. Ce n'eût été que mon devoir. Ni que vous fassiez votre devoir. C'est un homme qui souffre qui vous parle, à vous qui souffrez également. Mais je ne sais comment vous offrir mon aide, monsieur. C'est très délicat. Pour le moment, je ne dispose que de très peu d'argent. Il n'y a que lorsque j'aurai obtenu le divorce que... Faites, madame, ce que vous pourrez en attendant. À mon compte personnel, je possède peut-être une vingtaine de mille francs. Voulez-vous les accepter? Merci, merci, madame. Il faudra que je vous fasse un chèque. Je vous remercie infiniment, répondit M. Pommier humblement. Madame Nervray sonna sa femme de chambre. Dès que cette dernière parut, elle lui demanda de lui apporter son sac. Quelques instants après, avec la même dignité qu'il avait eue en arrivant, M. Pommier prenait congé de Madame Nervray. Il descendit l'escalier aussi lentement qu'il l'avait monté. Arrêté dans la rue, sans regarder à gauche ni à droite, comme un homme sortant d'une maison louche, il s'éloigna. Il n'avait pas remarqué un homme se tenant sur l'autre trottoir et qui feignait d'attendre un autobus. Il ne savait pas non plus que cet homme l'avait suivi depuis le quai des Orfèvres et qu'il n'était autre que l'inspecteur Tabouret. Arrivé place de l'Étoile, M. Pommier monta dans un tramway, toujours suivi par Tabouret. Il descendit à la station Villiers. Là, il prit la rue Lévis et, dans l'immeuble portant le numéro 14, il s'engouffra. Toute la journée, l'inspecteur arpenta la petite rue avec l'espoir de voir ressortir M. Pommier. Mais son attente fut vaine. La nuit tomba sans que le père de Suzy eût reparu.